Voilà, nous prenons la parole de Dieu pour nous exhorter. Alors certains messages nous sont donnés par un passage que nous commentons sans autre intention que de bien posséder ce passage. Et puis d'autres messages sont bien motivé par une intention première. Et c'est le cas de ce message ici, et cette intention, elle est très simple, je ne veux pas être compliqué. Je voudrais, mes frères et mes sœurs, vous mobiliser pour la prière d'intercession commune. Dans l'Assemblée, ça peut changer, ça peut être organisé autrement, mais c'est le vendredi à 18h30 actuellement que nous nous réunissons pour intercéder. Et cette réunion, j'aimerais qu'elle soit pas fréquentée, mais pratiquée, vraiment. Le Seigneur, ça a été cité dans une prière. Jésus dit dans l'Évangile, alors c'est tout un passage, mais je vous lis que les deux versets, chapitre 18, versets 19 et 20 de Matthieu. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il y a trois verbes. S'accorder, s'assembler, demander. Ça peut être dans l'ordre inverse, enfin pas tout à fait inverse, mais en tout cas ça peut être s'assembler, s'accorder, demander. Mais les trois sont dans cette parole du Seigneur par laquelle il nous promet, il nous dit, il nous affirme, il ne dit pas « je serai », il affirme que si nous sommes assemblés en son nom, il est au milieu de nous. Et ici, le contexte, c'est pour demander quelque chose, afin que cela nous soit accordé. Alors, on va aller tout simplement au témoignage de la première Église, dès l'instant où le Seigneur a constitué son Église. Et bien sûr qu'il y a un préalable à demander, c'est d'avoir été réuni par le Seigneur, tout simplement, de former soudainement un corps nouveau, avoir été visité par le Saint-Esprit, la parole de l'Évangile, et avoir vu la vie complètement réorientée, non seulement la vie personnelle, mais la vie communautaire réorientée. Et donc nous avons ce beau témoignage de l'Église au chapitre 2, verset 42 des Actes des Apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. Voilà l'Église réunie, puis bon, ils étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun, ça va beaucoup plus loin. Ils rompaient le pain dans les maisons, voilà. Une communion qui s'établit, une communion de foi, une communion de prière, être ensemble devant le Seigneur, à s'entretenir et à prier. vraiment le cœur, les cœurs qui vibrent tous au même diapason. Et voilà que l'Église, eh bien, se constitue et que très vite la persécution intervient. Au chapitre 4 des Actes des Apôtres, et les apôtres sont une première fois arrêtés et puis libérés. Donc à partir du verset 23, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples ? Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alors bien sûr que là nous sommes dans la plénitude de l'action du Saint-Esprit, c'est une foi sans hésitation, sans aucun doute. Il y a une action puissante de Dieu. Mais ce que nous voyons, c'est qu'ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Ils sont dans une communion pour prier, demander ensemble au Seigneur. Ils sont en accord pour faire cette prière. Ils intercèdent auprès de Dieu. Alors, ils commencent par honorer le Seigneur qui a créé les cieux et la terre. Ensuite, ils s'appuient sur la parole de Dieu. Et puis, ils font une demande instante, demande pour recevoir de Dieu une nouvelle capacité. Le but, c'est quoi ? Le but, c'est que l'Évangile soit répandu. Que la parole du Seigneur puisse faire son œuvre au milieu du peuple. Eh bien, ils reçoivent, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent remplis du Saint-Esprit. Ils reçoivent une réponse puissante du Seigneur, parce qu'ils ont prier avec force et conviction dans l'urgence, sentiment d'urgence que la parole devait être prêchée avec assurance. On avance dans l'expérience de l'Église, et puis un peu plus loin, nouvelle situation plus que problématique. Chapitre 12 des Actes, l'apôtre Jacques, le premier apôtre qui était avec le Seigneur lors des événements de l'Évangile, qui ensuite a été remplacé par un autre Jacques, frère du Seigneur. Mais ici, chapitre 12 des Actes, Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi, jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église prie pour Pierre de façon insistante, ne cessait. Et comment est-ce qu'elle le faisait ? Est-ce que chacun dans sa maison priait ? Non, nous le voyons au verset 13. Après que Pierre ait été libéré par la puissance de Dieu, verset 12, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Ce n'était pas une salle d'église, c'était une maison. Mais dans cette maison, beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Et peut-être qu'il y avait plusieurs lieux à Jérusalem où l'Église se réunissait, où des personnes étaient réunies et adressées à Dieu d'instants de prière pour l'apôtre Pierre. Et voilà que le Saint-Esprit a répondu aux prières de l'Église. Et il a libéré Pierre de façon absolument miraculeuse. Bien sûr que nous aimerions être dans ce temps où de tels miracles se produisent à nouveau. Mais en tout cas, le principe même, c'est que l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour Pierre et que cela se faisait par le rassemblement des fidèles là, dans une maison, dans un lieu. Au niveau des responsables, nous voyons au chapitre 13 qu'il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Pour la nomination des missionnaires, eh bien, nous voyons que cela se fait dans un contexte de prière en commun au niveau des responsables de l'Église. Là, ils servaient le Seigneur dans leur ministère, ils jeûnaient, ils étaient ensemble, et là le Saint-Esprit a pu leur parler et leur dire d'envoyer ces deux frères pour l'œuvre. Ils ne se sont pas arrêtés là, puisque après avoir reçu cet ordre par le Saint-Esprit, ils ont jeûné encore, prié et leur ont imposé les mains pour les laisser partir. Donc il n'y a aucun doute, la lutte pour être secouru, la recherche de l'inspiration, trouver les premiers chrétiens en communion d'esprit, de prière, mais physiquement réunis pour ces temps de prière. Outre les prières personnelles, comme lorsque nous voyons l'apôtre Pierre monter sur la terrasse à midi et voilà s'adresser au Seigneur dans la prière et recevoir une vision qui lui dit d'aller pour annoncer l'évangile à Corneille et sa famille qui l'attendaient. Donc il y avait les deux, bien entendu. Il y avait la prière personnelle, mais il y avait la prière ensemble. Les instructions que les apôtres ont ensuite données ne sont pas explicitement de se réunir pour prier, mais le contexte dans lequel l'apôtre parle indique que c'est à l'église qu'il s'adresse et qu'il suppose que les croyants vont prier en commun. Par exemple, Romains 15, verset 30, c'est dans ce chapitre d'ailleurs où l'apôtre désire que les chrétiens d'une seule bouche louent et glorifient le Seigneur. Hein. Donc, chapitre 15 de cet épître aux Romains, verset 30. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de Judée. En soi, ce n'est pas une preuve que les fidèles priaient ensemble, mais c'est une sérieuse indication, surtout si l'on considère que la lettre en question était lue au sein de l'Assemblée, lors du rassemblement. Ce n'était pas comme de nos jours où chacun peut lire sur son smartphone en étant à la maison. La lettre a été envoyée par l'apôtre aux responsables de l'Église qui l'ont lue devant l'Église assemblée. C'était comme ça que ça se passait. Passons sur 1 Corinthiens 12 à 14, hein, où l'apôtre ne traite pas spécifiquement de la prière d'intercession, mais qui témoigne d'un culte en commun très vivant. Aux Galates, l'apôtre demande de porter les fardeaux les uns des autres. Chapitre 6. Verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Être concerné, se sentir concerné par nos frères et sœurs, partager, identifier les fardeaux pour pouvoir les porter les uns les autres. Mais comment porter des fardeaux ? C'est pas se charger de toutes les difficultés de nos frères et sœurs, c'est les porter ensemble pour intercéder, pour demander la grâce au Seigneur. Les uns les autres. Que signifie l'enseignement de l'apôtre en Éphésiens chapitre 4, verset... Enfin, c'est tout chapitre 4, mais... dans ces versets 11 et 12, où le Seigneur, l'apôtre dit que le Seigneur a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Chacun s'attache son ministère. Mais pourquoi ? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Cette œuvre du ministère, ce n'est pas seulement le travail des apôtres. Les apôtres travaillent à ce que les saints soient dans l'œuvre du ministère, manifestent, donc l'action de Dieu soit mise au service du Seigneur. Et tout cela, donc, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Pas seulement une question d'intercession ici, mais d'être ensemble dans le service. Un passage très intéressant dans Philippiens, chapitre 1, verset 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Comment pensez-vous être dans un même esprit et combattre d'une même âme si on n'est pas là à partager ce combat ensemble? L'intensité dans laquelle nous devons prier apparaît bien dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 1. Il y a aussi aux Philippiens que Paul parle de cette manière, mais donc dans 1 Timothée, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Vous voyez ici l'ampleur de la tâche, l'ampleur de la demande. Il est bon d'être ensemble afin de supplier Dieu pour un si vaste sujet, pour que le roi, les gouverneurs, le président, les ministres nous permettent de mener une vie tranquille sur le plan de la foi et du témoignage. Qui va faire cela tout seul? C'est ensemble que nous sommes appelés à intercéder auprès du Seigneur, adresser des prières, des supplications, des requêtes, pour que cela se soit. Avec la bonne attitude, puisque Paul termine ce passage en disant « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Et dans ce domaine du rapport avec les autorités, c'est très précieux de savoir que nous devons élever des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Mais voilà, une insistance, des supplications. Ce qu'on fait initialement, les apôtres. Alors c'est Jacques qui nous demande également de prier dans un contexte de communion fraternelle et même de confession mutuelle de nos péchés, hein, dans Jacques chapitre 5 verset 16. Encore une fois, ce n'est qu'un extrait, c'est tout un passage. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante ou fervente du juste a une grande efficacité. Oui, c'est vrai, partageons nos fardeaux, partageons aussi nos confessions et prions les uns pour les autres. Les autres, et assemblons-nous pour cela. Alors tout ne doit pas se faire nécessairement dans une réunion d'assemblée, mais ça peut revêtir plusieurs aspects, dont la réunion commune qui est instituée au sein d'une assemblée. Voilà quelques références qui peuvent être retenues pour la prière personnelle, pour la prière en groupe restreint, mais qui nous porte surtout à nous assembler pour intercéder. L'intercession. Dès le commencement, les prophètes intercèdent, plaident, se placent entre eux, Dieu et le peuple, pour obtenir grâce. Et l'Église a cette mission d'intercéder. Intercéder pour ses fidèles, intercéder pour le monde, pour le peuple qui est autour de nous, afin que le Seigneur fasse grâce, intervienne, continue à se révéler, à manifester sa parole. C'est une des missions de l'Église. Intercéder, se placer entre Dieu et le peuple pour faire connaître à Dieu. Bien sûr, on peut dire Dieu connaît, mais Dieu connaît, mais nous participons à son intérêt, nous qui sommes sur la terre, à son intérêt et à sa préoccupation pour les âmes. Et donc, nous prions en intercédant. Toute communion est d'abord spirituelle, pour nous assembler, pour être bien ensemble, pour être fraternel. Tout cela, c'est bon. Mais tout commence par l'esprit. Et donc, dans la prière, l'esprit agit au milieu du peuple rassemblé pour adorer, pour louer, pour écouter, pour demander et pour témoigner. Et dans l'esprit, tout va ensemble. Revenez simplement à la promesse de Jésus d'être au milieu de ceux qui s'assemblent en son nom. C'est à cause de cette affirmation que nous croyons qu'une réunion, se réunir d'intercession est utile et nécessaire. Vendredi dernier, j'avais mis toutes les chaises qui sont derrière les bancs pour faire le cercle. Elles étaient remplies au tiers, je pense. Eh bien, que le Seigneur nous accorde la grâce, que ce cercle soit rempli dans les semaines et les mois qui viennent. Prenez cela vraiment à cœur. Intercédons ensemble. Amen.